Bonjour.
Voilà, donc ici on est au Tripostal pour une nouvelle exposition et vous intervenez en présentant les œuvres que vous avez collectionnées durant des années, enfin pas toutes les œuvres, mais une partie.
Une partie, oui.
Vous pouvez vous présenter ?
Oui, c'est une partie des œuvres et cette partie est définie un peu par le choix de mon co-curateur Caroline qui voulait montrer des artistes qui n'ont jamais été montrés au Tripostal. Et donc, c'était très compliqué de le montrer parce que Thomas Saraceno, c'est par l'intervention de mon fils, sinon c'est impossible d'avoir cet artiste. Voilà. Mais c'était peut-être la dernière chance. Donc, c'était quand même un challenge, et ça va encore être plus dur pour ceux qui nous suivent, de montrer des artistes qui n'ont pas été montrés. Hein. Mais puisqu'on a une collection très internationale du Japon, de l'Extrême-Orient, des artistes de Ghana et tout ça, on peut couvrir toute une grande partie de la scène mondiale.
Est-ce qu'on peut revenir sur votre collection, alors est-ce qu'on peut dire familiale ?
Oui, c'est familial parce que je viens d'engager depuis 2020 mes enfants dans la collection. Enfin, je faisais tout seul parce que c'était un hobby, hein, et ça a explosé, c'est encore un hobby, ça reste... Mais voilà, il y a d'autres contraintes, la collection est grande, il y a des problèmes de conservation et tout ça. Je voyais aussi que la collection n'était pas bien exposée, parfois internationalement, avec 3 personnes ou 4 maintenant, avec mon assistant, on pouvait faire beaucoup plus. Et on est un peu peut-être resté trop discret toutes ces années-là, un peu à l'écart de tout, un peu dirigé vers nous-mêmes. Et avec tous ces efforts de la famille et aussi des petits-enfants, on peut ouvrir et mettre le regard sur cette collection qui est cutting edge. Et beaucoup de personnes me disent que c'est une collection tout à fait à part. Il n'y a pas une deuxième collection comme la nôtre.
Alors justement, dans les collectionneurs, il y a deux types, peut-être que ça peut se croiser. Hein. Il y a ceux qui investissent, des investisseurs en art, et puis d'autres qui sont des passionnés. Comment vous situez par rapport aux deux ?
Oui, on parle parfois de collecteurs et de collectionneurs. C'est très différent. Les collecteurs, ce sont plutôt des gens qui collectionnent pour la maison, pour mettre des œuvres dans la maison, et après s'arrêtent. Peut-être ça arrive encore dans le garage, mais allez, c'est la fin. Ou ça est distribué chez les enfants. Moi, je n'ai jamais acheté pour la maison. Je n'ai jamais dit, c'est une chose qui peut entrer dans ma maison pour ça. Jamais. J'ai toujours dit, allez, j'ai la chance, mais pas la chance parce que je voudrais devenir médecin, mais j'ai la chance d'avoir une entreprise et je peux en profiter de créer un espace. Et là, je ne laisse jamais me limiter parce que j'étais beaucoup impressionné par des artistes qui peuvent travailler hors de leur figure, qui vont faire des œuvres qui ont hors de soi-même. Et ça, c'est impressionnant pour moi. Un artiste qui fait un tableau de 3 sur 4, et je ne comprends pas toujours comment ils font. Il faut aller à distance, mais voilà, ça m'a beaucoup impressionné. Et certaines œuvres, il faut évidemment avoir une certaine dimension pour impressionner. Et, voilà.
Donc au départ, les choix que vous faites, c'est des coups de cœur ou des gens vous dites il faut absolument l'intégrer dans ma collection.
Des artistes, ouais. L'artiste vient en deuxième rang. Hein. C'est pas, je regarde surtout les œuvres. Avant, il y avait des artistes très méchants, très 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 durs, comme par exemple Mario Merz, qui était, c'était comme ça, hein, et qui m'a dit pourquoi Walter vous êtes fou, pourquoi vous achetez mon travail, il était content avec rien. Maintenant, il faut faire attention parce que tous les artistes sont très éloquents, sont très ouverts et tout ça, ils peuvent parler très bien de leurs œuvres, ils sont très commerciaux aussi, et il faut toujours regarder à travers d'un artiste à l'œuvre qu'il crée.
Donc ces œuvres, elles ont été achetées au fil du temps. Quelle est la première œuvre que vous avez achetée et est-ce que vous l'appréciez encore ?
Oui, la première œuvre dans la collection, c'est une œuvre de Kossuth qui date de 66. Il y a 4 mots.
Four words,
four colors. Et c'était l'œuvre la plus ancienne. En effet, je suis commencé à collectionner un peu des artistes autour de moi, des artistes amateurs, comme je dis, que je vois maintenant. Quand j'ai découvert les grands musées en Allemagne, avec Joseph Beuys et Gerhard Richter, moi, j'ai dit, je dois chercher quelqu'un qui prend tout ce que j'ai déjà fait, localement, que j'ai acquéri. Et j'ai fait un échange avec une œuvre de Jacques Lipschitz, une sculpture. Et j'ai dû payer 20 000 euros de plus et donner tout le bazar que j'avais. Et ma maison était vide, tous les murs étaient vides. Et voilà, et j'ai dit non à ma femme, non, j'ai vu ça. J'ai été ébloui par ce que je voyais à l'Allemagne et j'ai dit non, je suis sur le mauvais pas.
Quelle est la dernière œuvre que vous avez achetée?
Oh, il faut bien voir maintenant, je pense que c'est une œuvre de Dominic Chambers que j'ai acheté. C'est un artiste noir américain qui m'a impressionné beaucoup parce qu'il est, il reflète beaucoup sur lui-même. C'est quelqu'un qui est très engagé avec la psychoanalyse, comme moi aussi. Mais n'étant pas rempli mon vœu d'être médecin, je suis toujours très intéressé dans la médecine. Et j'ai beaucoup aimé son travail. Et je vois que c'est un artiste qui a beaucoup de moyens d'arriver. Et surtout, son œuvre me fascine très beaucoup. Et ça n'a pas longtemps que je l'ai acheté, peut-être un mois.
Alors, si on prend Bill Viola, qui ici est présenté avec ses 4 vidéos qui ont bien sûr un sens, on ne peut pas les voir avec une seule des vidéos, il faut voir les 4. Hein. Est-ce que vous l'avez acheté au début de Bill Viola ou bien après?
Ce n'était pas une œuvre de début de Viola. Non, c'était une œuvre qui date depuis combien, 10 ans maintenant, qui était dans l'église à Londres, là, aussi présentée. Et j'étais beaucoup impressionné par cette œuvre parce que surtout, il y a 2 facettes à l'œuvre de Viola. Il y a 2 versions. Il y a des gens qui l'aiment et il y a des gens qui le détestent. Et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est le père de vidéo, hein, avec le chinois là. Mais oui, quand même, il est très impressionné.
Comment le nom du chinois?
Nam Jun Paik, oui.
Japonais, coréen.
Il y a aussi Bruce Norman qui est commencé très vite. Il y a d'autres. Hein. Il y a Matt Mullican. Il y a d'autres aussi qui sont... Il n'est pas le premier. Mais j'ai un peu de problème avec ces œuvres mélo de Bill Viola où les gens pleurent, bougent comme ça. Ce n'est pas mon truc, ça. Et si je voulais une œuvre vraiment dure, les acteurs ont beaucoup souffert dans cette... Aussi, c'est pas ça. Hein. On voit une vidéo, mais c'est la réalité. Hein. C'est mis sur un plateau, ça a duré des heures, des jours pour prendre les séances. Kira, sa femme, m'a dit, voilà, c'est, on ne comprend pas si on voit le make-up, c'est vraiment impressionnant de voir. Et on devrait peut-être montrer un petit vidéo aussi de lui pour montrer comment il réalise les œuvres.
Alors, une autre vidéo, parce que là on est dans la vidéo, c'est celle qui est au 2e étage, qui dure 1 heure et qui est magnifique esthétiquement.
Oui, je peux laisser mon fils parler de ça.
Bonjour.
Bonjour. C'est le festin du Triemarchio du collectif russe ISPZF qu'on montre là. Et c'est autour des fêtes saturnales, qui c'était des fêtes qui ont fait dans la période romaine, où les maîtres et les esclaves ont changé de rôle. Et un jour par an, les esclaves sont servis par leur maître comme une gratitude à le service qu'ils rendent tous les jours.
Donc cette vidéo est très impressionnante, d'abord parce qu'esthétiquement elle est magnifique, elle est très grande en largeur, on va dire, et puis on peut la regarder, ben moi je l'ai vue par la gauche,
et
pas forcément de face, et je trouve qu'à chaque fois il y a quelque chose de nouveau, toutes les 2 minutes, ça change de plan, de personnage, on est sur les mêmes thématiques, mais il y a une vraie richesse.
Pendant 1 heure, mais on a dans le musée, dans la collection, on a la vidéo des 9 channels, 9 écrans. Et ce sont 3 histoires qui se jouent au même temps. Et quand on les projette, les 3 écrans au même temps, on n'a que 20 minutes besoin pour les montrer.
21 minutes.
Maintenant, c'est 1 heure parce qu'ils se répètent un après l'autre. Hein.
Donc, on peut dire que c'est une œuvre très esthétique, qui a aussi un sens par rapport à l'histoire, etc., culturelle, on va dire. Hein. Est-ce que l'artiste qui l'a réalisé, c'est quelqu'un qui vous intéresse déjà en tant que projet.
C'est une trilogie qu'ils ont fait et on a vu le premier du vidéo, c'était Lost Riot, c'était en 2005 à la Biennale de Venise. Mais ce sont des artistes qu'on suit depuis longtemps. Mais ce n'est qu'après une visite en 2009 à la Biennale de Venise que j'ai vu l'expo Unconditional Love. Et c'était dans une grande salle avec trois écrans très grands. Et on a projeté les trois séquences de vidéo en même temps. Et c'était quelque chose impressionnant. On était là pendant une heure parce qu'on ne savait pas où voir, parce qu'il y a des actions après vous, devant vous, à côté de vous. Et c'est un grand spectacle d'être dans cette œuvre.
Il faut aussi bien dire que cette œuvre, les gens ne comprennent pas, il faut l'expliquer. Ce n'est pas une vidéo qui est tournée, ce sont tous des effets photos. Des photos consécutivement collées, oui, et ça donne un peu cet aspect de quelqu'un qui, voilà.
Alors, justement, la différence par rapport à ce triptyque où là, les gens doivent choisir, sont frustrés, c'est très différent comme approche du public.
Oui, mais ce sont toutes des versions qui sont créées par les artistes. On a le choix de voir le film une version après l'autre, trois fois, ça dure une heure. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir une autre version. Mais ici, c'est l'emplacement au tripostal qui a déterminé comment on devait le montrer, parce qu'on n'avait pas la place pour montrer les trois écrans en même temps. Et maintenant, ils sont en séquence continue. C'est l'endroit.
Donc, vous êtes le fils du père. Le père, on peut rappeler votre nom?
Walter van Arens.
Voilà. Le fils?
C'est Joost.
Voilà. Comment vous inscrivez dans votre famille toute cette histoire? Et est-ce que pour vous, c'est un projet commun qui vous porte vers l'avenir?
Oui, mais quand j'étais petit enfant, j'avais que 10 ans, on a dû visiter des galeries, des musées. C'est un seconde nature, c'est devenu un seconde nature pour nous. C'est évident qu'on a des œuvres d'art à la maison, dans les bureaux. On vit entre l'art toujours. Et il y a aussi ma sœur qui est juste à côté de moi ici. On est trois pour faire la collection. Et c'est gai parce que on est toutes différentes, on a nos propres choix, mais on se met d'accord sur des achats et ça c'est bien. La collection a grandi encore tous les jours et on voit avec un regard très ouvert parce qu'avec toi, le regard est beaucoup plus ouvert qu'on est seul. Et de temps en temps, on se met d'accord, de temps en temps, on se discute, mais c'est bien discuter.
Comment on arrive à s'entendre quand le monde change et quand les générations qui ont leur propre imaginaire, leur propre culture, transmettent à d'autres et travaillent ensemble?
Oui, mais c'est surtout ce qui est vraiment intéressant, c'est le monde des artistes noirs. Parce qu'il y a 10 ans, les artistes qui avaient beaucoup de succès, on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Maintenant, ils sont plusieurs. Et c'est grâce à les Black Lives Matter, ce mouvement, qu'il y a un podium maintenant.
Et maintenant, ils sont là pour... Il y a des très grandes écoles au Ghana. Il y a des peintres fabuleux qui sont vraiment, qui ont le métier. Et c'est très intéressant qu'on voit l'évolution des artistes contemporains au Ghana, aux États-Unis surtout, mais aussi au Nigeria et à d'autres pays. Voilà, c'est un mouvement. Moi, je vois pas de distinction entre noir et blanc, entre hommes et femmes. Pour moi, ça compte pas.
Alors, on est dans un temps où les femmes demandent à exister. Mieux qu'avant, être respecté. Est-ce que le fait d'avoir une femme dans l'équipe, ça peut apporter in English, if you want. Donc ma question c'est how you imagine the future of the art as a woman?
The future of an art. We look not if it is a woman or a man. We look at painting, and if it's not good, it doesn't matter. It's a woman. We look at the art piece, and it must be good.
Mais c'est comme j'ai dit, des Africains, ils ont beaucoup de choses à rattraper parce qu'ils n'étaient pas représentés sur le monde de l'art. Et c'est le même avec les femmes. dans le temps, on ne pouvait pas acheter des femmes parce qu'il n'y avait pas de femmes dans le marché d'art. Il y a 20 ans, c'était un monde masculin et blanc. C'était tout des blancs, les artistes étaient tous des blancs, tous les noirs étaient refusés des galeries. Et maintenant, c'est beaucoup plus ouvert au monde.
Oui. On ne peut pas nous reprocher de me reprocher d'avoir des artistes masculins parce que dans la période des années 60-70, il y avait peu de femmes. Mais c'est un peu la même chose avec les Africains. Là, on ne voit que des hommes maintenant. C'est la même histoire qui se répète. Il y a peu de femmes féminines en Afrique qui réalisent des œuvres.
Donc je vais quand même demander, oui, pour vous, mademoiselle ou madame, hein, quel est votre artiste ou vos artistes favoris dans cette collection ou dans d'autres univers?
I prefer Ugo Rondinone. It's my favorite artist because he can create a room. It's fabulous. It don't needs a lot of explanation. You see the silence of the clown. You don't need explanation.
Thank you. Caroline David nous a rejoint. Donc Caroline, cette journée, j'imagine, est très éprouvante mais exaltante en même temps.
Les journées d'exposition et d'ouverture d'exposition ne sont jamais éprouvantes. Elles sont exaltantes. On attend avec impatience le public et les réactions du public. Et au Tripostal, quand le public arrive sur 6000 m² pour découvrir une exposition, c'est toujours un grand moment.
Comment on négocie en tant que curator les relations entre le collectionneur qui va amener ses œuvres et l'espace qui peut les accueillir?
Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'en effet, il y a les collectionneurs qui connaissent leur collection, qui ont leur collection depuis des années. Et puis, du côté de l'île 3000, c'est-à-dire de mon côté, une connaissance du Tripostal extrêmement forte, mais une connaissance un peu moindre de certaines œuvres et quelquefois de certains artistes. Donc c'est une rencontre. C'est une rencontre, il y a à peu près un an et demi, de découverte, où on se découvre les uns les autres aussi, et puis où on va découvrir la collection et voir quelles œuvres, quels artistes vont avoir du sens aussi, quelles sont aussi un petit peu nos préférences, vont avoir du sens au Tripostal.
Alors le fait d'avoir dirigé le FRAC, hein, le Fonds Régional d'Art Contemporain, qui était à Lille et après à Dunkerque, on a vu un peu tout ça, hein, est-ce que ça vous donne des clés de compréhension de l'art contemporain et en quoi est-ce que vous en avez absorbé, appris, reconnu, vous permet de dialoguer avec des collectionneurs qui sont ici présents?
Bon, au bout de certaines années, passer son temps et sa vie dans l'art contemporain, on est quand même très familier avec le milieu des artistes, avec même les collectionneurs. Mais en même temps, on découvre les artistes, on découvre l'évolution de l'art tous les jours. Et moi, je dois dire qu'entre acheter les œuvres de l'Arte Povera en 1985 avec Yanout et découvrir des artistes dans la collection Van Arens, plutôt sur cette partie afro-américaine que je connaissais beaucoup moins, puisqu'elle est beaucoup plus récente, c'est extrêmement intéressant et on apprend et on découvre.
Donc moi j'ai trouvé à la visite de cette exposition-là qu'il y avait une vraie diversité, un vrai questionnement aussi sur ce qu'est l'art et comment on le projette dans le temps, et que tous les publics sont concernés pour moi.
Alors surtout sur cette exposition, je dois dire que c'est une exposition qui se livre à plusieurs niveaux et pour tout public, parce que les œuvres peuvent se regarder très simplement. On a des très grandes peintures, on a des œuvres très visuelles et donc qui interpellent dès le premier regard, que ce soit un public jeune, que ce soit un public averti au niveau de l'art contemporain ou un public plus âgé. Mais ces œuvres-là, je crois que toutes ont aussi des messages qui peuvent se lire en regardant le cartel un peu plus pour décoder et puis pour approfondir. Et d'ailleurs, des QR codes ont été mis sur les cartels pour ceux qui veulent approfondir et découvrir mieux qui est Ugo Rondinone ou Boifo ou Bill Viola.
Voilà, donc merci à ces collectionneurs qui sont ici de nous avoir proposé. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur d'eux-mêmes ou de leur collection, mais en tout cas, c'est ce qu'ils avaient envie de montrer et de démontrer.
Oui, je dois vraiment dire que Caroline a commencé à dire qu'elle voulait montrer des artistes qui n'ont pas été montrés au Tripostal. Et c'était pour nous une occasion qui est intéressante parce qu'on peut montrer une partie de la collection qui est exquise, hein, d'une certaine façon, et surtout montrer un artiste comme par exemple Saraceno qui est vraiment parti. C'est une des dernières occasions que cet artiste est encore faisable de montrer de cet artiste en question d'économie parce que voilà il est demandé partout, hein, et c'est vraiment le laisser rencontrer le public avec son espace aérien où peut-être dans l'atmosphère on va aller vivre bientôt dans peut-être 50 ans il y a des éléments qui vont se créer dans l'atmosphère saine, hein, qu'on n'a plus sur la Terre. Donc, c'est un artiste visionnaire.
Merci donc d'avoir présenté cette collection, une partie, hein, 10%, on m'a dit, Lille, peut-être un peu plus. Est-ce qu'en Belgique, on peut voir aussi des œuvres dans un autre contexte,
hein? Oui, on a un espace à Bruxelles, dans la basse ville, dans le quartier d'Ansart, où on a 3500 mètres carrés aussi, qui est la moitié d'ici. Et là, on organise des visites de groupe, visites aussi un peu de dîner parfois, des films qui louent l'espace. Et chaque mois, il y a donc les personnes privées qui peuvent venir. Et j'espère que ça va donner plus d'intérêt, cette exposition, pour la première fois qu'on sort de la Belgique. C'est pas très loin de la Belgique, parce que Lille, c'est peut-être la ville capitale de la Flandre, comme on dit. Hein. Mais je pense que ça va donner aussi, avec tous les efforts qu'on peut faire à Troyes maintenant, que ça va donner la collection plus en valeur. Donc
effectivement, comme vous le dites, le fait d'exposer ici, ça peut aussi valoriser votre collection. Est-ce que vous en avez conscience ou est-ce que c'est comme ça?
Ce n'est pas une question d'argent, parce que pour moi, j'ai jamais collectionné pour gagner de l'argent. Du début, j'ai pensé que je pourrais, comme dans chaque hobby, dépenser de l'argent. Et j'ai vécu la période de 90-91 où le marché est descendu terriblement. Quand je vois ça de retour, ma femme disait « Oh, quel argent on a perdu !» Les œuvres étaient peut-être la valeur de cinquième que j'avais payé, hein, dans le temps. Une œuvre de Warhol, par exemple. Mais moi, j'ai jamais... Je viens d'une génération ancienne où c'était plutôt pas l'idée de gagner de l'argent. Et surtout, on disait que gagner du profit avec l'art, c'était pas possible. Mais j'ai vu ce changement qui date depuis 15 ans où tout le monde s'est commencé à intéresser pour l'art, investir là-dedans. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je dois maintenant l'assurer ou pas? Rien n'était assuré parce que voilà, c'est un tableau, c'est une toile, qu'est-ce que ça vaut, hein? Et maintenant, le marché a bougé beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai dit, laissons-nous concentrer sur les artistes qu'on a, de les collectionner en profondeur et de nous concentrer sur les jeunes artistes qu'on a toujours fait, qu'on donne une plateforme aussi. Et c'était aussi cette idée qui est toujours, qu'on prend et qu'on suit dans les prochains achats. Et si un nombre d'artistes sont trop chers maintenant dans le marché, on ne peut plus. Mais c'est bien de pouvoir représenter un artiste dans sa carrière, c'est bien ça. Et je rappelle parfois la phrase qu'on dit des collections belges, sans artistes, sans œuvres. Ça veut dire que c'est un trophée collectionné de l'art. Et on peut dire à la table avec beaucoup de... qu'on dit, OK, on a aussi une œuvre de tel ou tel artiste, hein, mais c'est pas le but. Il faut essayer de montrer un artiste dans sa carrière, comment elle évolue. Et ça, c'est surtout le but. Et On a eu beaucoup de reconnaissance déjà. Ça commence vraiment qu'on estime la collection Van Arens comme une collection importante. Et je pense qu'on a été beaucoup un peu à l'écart de un trésor caché, comme la presse belge dit, hein, dans Bruxelles, très retiré. Oui, il faut que, comme Caroline a dit dans le speech, il ne faut pas fermer les œuvres, hein, parce que les artistes, il y a beaucoup d'artistes maintenant qui ne veulent plus vendre les musées, parce qu'ils arrivent dans les dépôts. Il y a par exemple un artiste américain aussi qui a dit « je ne veux plus, je veux vendre mon œuvre à une collection qui le montre ». Et c'était Alvaro Barrington et... Il y avait une compétition d'un grand nombre d'institutions. Et moi, j'ai horreur de ça, cette compétition. Mais, et puis, avec l'équipe de la galerie, avec 20 personnes, on s'est ramassé. On a dit, on va décider qui va acquérir l'œuvre. Mais Oukis, c'est une grande reconnaissance. Et qu'on est sérieux, qu'on fait l'effort pour les artistes. Quand ils ont besoin de ça, hein, dans leur carrière jeune, comme j'ai fait avec Nara, par exemple, Yoshito Monara, qui est une grande vedette maintenant. J'ai vraiment supporté sa carrière au début, parce qu'il était à Düsseldorf, hein, j'ai rencontré plusieurs fois.
Merci de présenter ces œuvres que vous avez choisies en commun avec Caroline David à Lille. Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui sont intéressants aussi pour présenter ces œuvres dans un autre contexte ou peut-être avec un autre choix esthétique ou par rapport aux artistes que vous représentez d'une certaine manière?
Oui, il y a des endroits qui me fascinent. Par exemple, le Palais de Tokyo, hein, dont j'étais... Après Hugo Rondinone, invité, parce que Hugo, un ancien directeur de Palais Tokyo, a proposé de demander aux artistes de créer des expositions. Hugo Rondinone, c'était Waller, je pense, le curateur, mais n'est pas resté longtemps. Et Hugo a proposé, je connais un collectionneur que je vais donc vous proposer pour créer une exposition, mais pas de aller, pas de sa collection, mais qui peut faire ça. Et on avait des contacts, mais ça c'est à cause du départ de... Je ne sais pas si d'autres artistes ont fait, mais l'exposition de Hugo et ses grandioses-là.
Alors c'est vrai que Caroline David, on peut compter sur elle, sur la durée, et c'est intéressant d'avoir toute cette expérience mise au service du public.
Bien sûr, de toute façon c'est une exposition sur 4 mois, et donc c'est une exposition qui va se révéler à partir de ce vendredi et qui va accueillir. On a déjà une réservation de 400 groupes scolaires qui vont venir le matin découvrir l'exposition et revenir avec leurs parents, parce que depuis 2004 les enfants qui viennent dans des écoles ont des tickets pour revenir avec leurs parents gratuitement le week-end ou dans les 4 mois de l'exposition.
Voilà, donc et la ville de Lille, évidemment, peut attirer, grâce à votre présentation, des publics différents qui seront, j'imagine, intéressés, conquis par les œuvres que vous présentez. C'est intéressant de rencontrer un public.
Oui, c'est un public très jeune et j'étais très surpris comment c'était l'engagement de la ville de Lille et surtout du maire d'inviter beaucoup de jeunes. J'ai rappelé la même histoire au maire de Bruxelles qui était là hier soir. C'est là, c'est le futur, c'est les jeunes. Et c'est les jeunes qui viennent plusieurs fois, qui veulent voir l'exposition 2-3 fois, qui apportent les parents, les grands-parents, parce qu'ils reçoivent 2 tickets. Voilà. Et c'est comme ça, c'est parfois par les jeunes que les parents sont engagés et intéressés.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Martine Aubry, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc depuis Lille 2004, vous allez au bout de vos rêves aussi?
Ben oui, j'espère que je ne suis pas encore au bout de mes rêves, mais je poursuis effectivement en ayant l'assurance que la culture ouvre l'esprit et les cœurs aussi, fait partager des émotions, surtout dans... dans l'art contemporain, même si toutes les formes d'art me plaisent. Et donc là, je crois qu'on a à nouveau une très belle exposition qui va faire réfléchir, parce que beaucoup de ces artistes parlent des discriminations, mais aussi des inquiétudes qu'on a sur notre société. Parlent aussi du développement durable, évidemment, de la transition écologique. Donc, c'est encore une fois une exposition qui va nous faire réfléchir et sans doute partager des émotions.
Voilà, avec des œuvres qui s'intègrent parfaitement à cet immense ensemble qui est le tripostal est magnifiquement présenté.
Oui, mais c'est vrai que le tripostal, on peut en faire tout ce qu'on veut. On peut montrer des petites œuvres miniatures très douces et on peut montrer ces œuvres monumentales qui, ici, sont présentées formidablement bien avec un éclairage qui fait que chacune est visible, personne ne fait d'ombre à la voisine. Donc, c'est vraiment une superbe exposition.